Alors, la 41e édition du défi sportif Altergo, c'est très, très bientôt. C'est le 26 avril que la cérémonie d'ouverture aura lieu. L'événement va s'étirer jusqu'au 5 mai. Canalem couvre l'événement avant, pendant, après. Et puis, pour en parler, nul autre que la fondatrice du défi sportif Altergo, qui a été directrice générale d'Altergo de 1981 à 2019. On la joint, je pense bien qu'elle est dans les cantons de l'Est. Monique Lefebvre, bonjour. Bonjour.
Bien le bonjour. Eh oui, en direct de Magog.
Bon, est-ce qu'il pleut chez vous? Il fait beau? Quel temps fait-il?
Oh, il fait un temps formidable, un soleil radieux. J'ai pris quelques soirs en écoutant votre émission tantôt.
Ah oui. Ouais. On est content de savoir.
De vous entendre et d'entendre que les garçons ont eu leur, les hommes ont eu leur laissez-passer pour les Jeux paralympiques en basketball. J'ai bien apprécié la nouvelle de Dominique.
Oui, Dominique Tremblay, que vous connaissez, qui va être notre chroniqueur officiel pendant le défi sportif Altergo.
Wow, fantastique.
Alors, Monique Lefebvre, vous êtes la fondatrice, l'instigatrice du défi Altergo, mais d'abord et avant tout, comment est né Altergo?
Altergo est né en 1975 d'une volonté des associations de loisirs de personnes handicapées de Montréal de se réunir, de se rassembler pour promouvoir le loisir des personnes handicapées et faire en sorte qu'ils deviennent plus accessibles.
Et un jour, vous avez pensé au défi sportif Altergo.
Oui, ça c'est arrivé, l'idée m'est arrivée en 1982. Parce que c'était aussi l'époque d'une certaine récession pour les gens qui sont plus âgés, qui ont vécu cette époque. Et je suis devenue directrice d'Altergo en 1981. Mm-hmm. Alors, faut trouver des façons de se dépasser, d'aller vers l'autofinancement et de répondre aux besoins des personnes qui ont des limitations. Alors, à l'époque, j'ai eu l'idée de partir d'une richesse de Montréal qui était la présence de plusieurs clubs sportifs chez les personnes handicapées. Et en même temps, je voyais que chaque association était isolée. Il y avait peu de contact entre elles. Alors, je me suis dit, le sport, c'est quelque chose de significatif, de dynamique, de positif. Quand on voit des personnes qui ont des limitations faire du sport, ça donne toute une autre image que celle de la pitié. Alors, je me suis dit, invitons les associations sportives à se réunir dans le cadre d'un événement pour promouvoir le sport et en même temps promouvoir le potentiel, parce qu'en 1982, l'image des personnes handicapées, la connaissance des capacités n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, on mettait de l'avant le potentiel des personnes qui ont des limitations. Puis, à l'époque, M. Yvon Deschamps a accepté d'être notre formidable porte-parole pendant 15 ans.
Et qu'est-ce que ça représente, ce défi sportif pour les para-athlètes?
Ce qu'on entend beaucoup des athlètes, c'est un point de départ, une stimulation importante. Parce qu'au fil des ans, dans le cadre du défi sportif, on retrouve aussi beaucoup d'enfants. Et ça, c'était une des préoccupations du défi, que les athlètes de la relève côtoient les athlètes d'élite. Alors, quand on parle de para-athlètes, si vous voulez signifier les athlètes qui vont aux Paralympiques, c'est sûr que plusieurs d'entre eux ont commencé leur carrière sportive, leur initiation au sport dans le cadre du défi sportif dans le volet relève. Et aujourd'hui, ils sont dans le volet élite. Quand tu es dans le volet élite, ça te permet de rencontrer des athlètes de niveau international, puis de faire une compétition chez toi. C'est vraiment quelque chose de formidable. Mais pour plusieurs, le défi sportif, c'est, comme dit slogan, tout part d'ici. Cette oui. année, c'est le slogan « Tout part d'ici ». On commence, on initie les jeunes, puis on a une collaboration exceptionnelle du milieu scolaire. Environ 5000 enfants vont participer au défi sportif. Fait qu'on réussit à faire bouger des jeunes qui prennent le goût au sport ou aussi des jeunes qui sont soit accidentés et qui, avant, pratiquaient du sport puis ont le goût de continuer. Alors, c'est vraiment une opportunité pour goûter à la saveur formidable de la pratique du sport.
Et il y a combien de sports qui sont représentés, qui sont à l'honneur?
Cette année, il y a 9 disciplines. Alors, c'est sûr que dans le milieu scolaire, on va avoir beaucoup de parathlétisme, de soccer, de hockey ball, de baseball, des circuits en fauteuil roulant. Et dans les compétitions de plus haut niveau, on va avoir du basketball en fauteuil, du parathlétisme avec la classique Chantal Petitclerc, du para-hockey, connu anciennement sur le hockey luge, de la para-natation. et un grand tournoi, la Coupe du monde de boccia, qui est vraiment une compétition très, très, très marquée. Et le Power Soccer, peut-être certains des auditeurs ont déjà entendu parler de ce sport, qui est parti de Montréal, des professeurs qui ont pensé à ce sport accessible à des personnes qui sont en fauteuil motorisé. Et cette année, pour la première fois au défi, on aura une compétition internationale. Il va y avoir Canada, États-Unis et Mexique. Alors, on voit que tout part d'ici.
Oui.
Et soyons patients, ça se développe avec le temps et on en a la preuve aussi avec le Power Chair Soccer.
Je constate.
Oui, excusez.
Non, allez-y.
Il y aura aussi de la gymnastique rythmique et de la natation pour les personnes qui ont des déficiences intellectuelles.
J'allais dire que je constate que même si vous ne dirigez plus Altergo, le défi sportif Altergo, vous êtes complètement au fait de ce qui se passe.
Ben oui, c'est une question d'amour.
Oui, hein?
C'est une question de cœur et ben je laisse l'équipe faire son travail. Je suis très heureuse de pouvoir porter la bonne parole, puis ils peuvent compter sur moi, je les appuie. Et quand j'ai pris ma retraite, ils m'ont fait une grande fleur de nommer un prix en mon nom, prix Accessibilité universelle. Alors, c'est sûr que ce prix est remis dans le cadre de l'Assemblée annuelle. Donc, j'y suis présente. Ça me permet de connaître les avancées de l'organisation puis de voir le travail formidable qui se fait par toute l'équipe, autant du personnel, des membres du conseil d'administration et des bénévoles. Et je suis très heureuse et fière d'eux.
Bien oui, puis nous, on est heureux aussi qu'on ait eu la bonne idée de nommer un prix en votre honneur. C'est la moindre
Merci.
Des choses. Et en mars dernier, d'ailleurs, parlant de prix, vous avez reçu un autre prix, le prix Réseau pour votre carrière en loisirs. Qu'est-ce que c'est que ce
oui.
prix-là?
Bien, c'est un prix qui est remis par le Conseil québécois du loisir, qui est une organisation québécoise qui regroupe des fédérations, une trentaine d'organisations provinciales et qui rejoint environ 5000 associations locales à travers le Québec. C'est une organisation qui est dédiée plus au secteur loisirs, parce qu'on entend souvent l'expression loisirs et sport.
Ouais.
Et plusieurs fois, vous m'avez interviewé sur les prix que j'ai récoltés dans le cadre du défi sportif, mais dans le cadre de mon travail, j'avais aussi à travailler le développement du secteur loisirs. Et quand on parle du loisir, ça peut être le secteur loisir socioculturel, le loisir plein air, le loisir scientifique. C'est les autres aspects du loisir. Et cette organisation-là, le Conseil québécois, veut aussi mettre de l'avant, faire rayonner le loisir et le rendre plus accessible. Donc, c'est une association à laquelle l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées est membre. Et ils m'ont mis en nomination et j'ai eu la chance cette année de remporter ce prix qui est vraiment spécial parce que le loisir, c'était aussi dans le cadre de la mission d'Altergo de développer ces secteurs-là. Ça m'a permis, entre autres, de travailler à éliminer les obstacles au loisir et de mettre en place des programmes comme formation Altergo pour sensibiliser la population, les travailleurs aux besoins des personnes qui ont des limitations et au potentiel. Et ça m'a permis aussi de mettre de l'avant tous le besoin d'accompagnement des personnes qui ont des limitations, de créer une carte d'accompagnement, parce que la carte d'accompagnement en loisir, c'est une initiative qui est partie de la Ronde de Montréal, qui est située au Parc Jean-Drapeau. Et à l'époque, il y avait des difficultés d'accès et Altergo, avec les associations membres, on a fait une proposition à la Ronde pour qu'il y ait une carte, une reconnaissance du besoin d'accompagnement pour les personnes qui ont des limitations. Et au bout du compte, encore une fois, c'est parti. Ça a continué, ça a évolué. Puis maintenant, bon, on a une carte d'accompagnement en loisirs qui est québécoise et que les personnes qui ont des limitations peuvent faire reconnaître la gratuité de l'accès pour leur accompagnateur.
Bon, alors un autre prix grandement mérité. Félicitations,
ah, ben merci.
Madame Lefebvre. Et vous parliez de formation Altergo. Est-ce que ça continue? Est-ce que les ateliers sont toujours offerts sur justement les multiples aspects de l'accueil, de l'accompagnement, de l'accessibilité universelle?
Ah, plus que jamais.
Oui?
Oui, oui, l'équipe continue un travail très important. Le nom a changé. Maintenant, ça s'appelle Altergo Expertise parce qu'ils ont développé une expertise pour la sensibilisation et ils vont faire de la sensibilisation et de la formation dans différents domaines. Une des choses qui est vraiment formidable aussi, c'est le soutien qu'ils donnent aux municipalités qui ont à développer des politiques d'accessibilité et qui ont parfois, souvent, besoin d'accompagnement ou d'appui professionnel pour faire en sorte que les politiques des municipalités et leurs plans d'action répondent davantage aux besoins des personnes qui ont des limitations et à l'ensemble de la population aussi. Alors, continue très bien.
Et Monique Lefebvre, quand vous pensez au début du défi sportif et que vous voyez ce qui est devenu l'événement 40 oui. ans plus tard, même plus de 40 ans plus tard, quelles sont les pensées qui vous viennent spontanément en tête?
Ah, du bonheur.
Oui.
oui. Ben, je trouve que les avancées, parce qu'on recule en 84, le premier défi sportif, les avancées sont exceptionnelles dans tout ce qu'on a pu réussir à bâtir les gens du milieu, les différents partenaires, puis faire que l'accès au sport, au loisir soit vraiment une réalité plus grande qu'elle était en 1982. Quand on regarde dans les prix qui sont octroyés en accessibilité, pour le prix en accessibilité universelle, entre autres, il y a le Théâtre du Rideau-Vert qui s'est mérité ce prix cette année, c'est le Centre des sciences de Montréal. Alors, on essaie de toucher davantage des services qui sont offerts à l'ensemble de la population. Et en 1984, on avait beaucoup le réflexe que le loisir des personnes handicapées, c'était entre personnes handicapées, mais peu de dispensateurs de services de loisirs se sentaient interpellés et sentaient qu'il y avait besoin de répondre aux besoins des personnes handicapées. Alors, on voit un changement important. Puis là, on parle des Paralympiques en même temps qu'on parle des Olympiques. Alors, il y a des changements sociaux vraiment formidables. Donc, je suis contente.
Ah bien, tant mieux. Contente, du contentement, du bonheur. On aime ça.
Oui.
Et mais peut-être que les gens connaissent un peu votre histoire parce que vous êtes née de deux parents qui ont eu des limitations fonctionnelles. C'est en quelque sorte vos parents qui vous ont poussé à changer la perception de la société à l'égard des personnes ayant un handicap.
Oui, ben mes parents ont toujours été actifs dans le monde du loisir des personnes handicapées. Ce sont deux personnes qui ont étudié à l'école Victor Doré à l'époque. Et Mme Lucie Bruneau leur avait offert de louer un local pour qu'ils puissent se réunir et faire du loisir, ce qui a donné vraiment l'impulsion pour former un club qui s'appelait le Loisir Le Grillon. Alors, eux ont été bénévoles, membres du conseil d'administration, organisaient des activités de loisirs à tous les mois. Et quand tes parents sont impliqués dans la société, ben, les enfants embarquent.
Habituellement.
Ils sont aussi bénévoles.
C'est un bon modèle.
Alors, oui, j'ai commencé très tôt à être partie prenante des associations de loisirs, à faire du bénévolat. Puis c'est là que j'ai vu le potentiel des personnes qui ont des limitations. Et aussi, quand j'allais au sport, parce que mon père a été actif en basketball, en football, danse. Et quand on allait au sport, les gens trouvaient ça formidable de le voir aller. Puis quand j'allais à l'épicerie avec ma mère, ben, on lui donnait des 25 sous parce qu'elle faisait pitié.
Aïe,
J'ai vu que le sport avait vraiment un volet très intéressant pour mettre de l'avant vraiment le potentiel des personnes. Puis mes parents m'ont inspiré par leur implication sociale et par le fait que pour eux, ils étaient des personnes comme tout le monde et qui avaient accès aux services. Donc, ils sont encore ma grande source d'inspiration.
Et pensez-vous qu'ils auraient une vision positive de la société envers les personnes qui vivent avec des handicaps fonctionnels aujourd'hui en 2024?
Oui, ben, ils ont connu beaucoup d'obstacles parce qu'à l'époque, il y avait peu de choses accessibles. Alors, quand ils voient qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, ils sont décédés maintenant, mais à l'époque, quand ils étaient vivants, puis ils ont vu l'évolution de la société, ils étaient vraiment très heureux. Et tout comme moi, mais on reconnaît que des grands pas sont faits, mais il reste encore beaucoup à faire.
Ouais.
Ça, faut pas dénigrer cet élément-là. Je pense que ça nous donne une motivation de voir que oui, une nette amélioration. Puis aujourd'hui, on parle des personnes qui ont des limitations avec le mot capacité. C'est quand tu es discriminé pour comme personne qui a une limitation, ben on dit que les gens font du capacitisme. Fait qu'on voit aussi que dans le langage, on reconnaît les capacités des personnes handicapées. Il ne faut pas faire de discrimination sur les capacités. Elles sont vraiment présentes, elles sont différentes.
Et il faut continuer de j'allais dire prêcher pour sa paroisse. C'est pas nécessairement l'expression juste, mais vous avez des convictions et vous les partagez, et c'est une forme aussi d'éducation, de conscientisation à l'égard de certaines personnes qui auraient justement des préjugés, ou quelquefois c'est même pas des préjugés, c'est parce qu'on n'est pas en contact avec les personnes en situation de handicap et on sait pas trop comment faire. Mais plus on est nombreux à être conscient, plus le message passe. Et c'est pour vous amener à votre maxime qui est: tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin.
Oui, vous touchez un point important, parce qu'Altergo, c'est aussi doté d'un schéma de transformation sociale. Puis un des éléments importants, c'est que l'accessibilité soit partout pour tous. Et c'est vraiment l'idée qu'on travaille en collaboration, les associations ensemble, les dispensateurs de services, les villes, le gouvernement, pour changer la situation. Parce qu'une seule personne, une seule organisation, un seul intervenant ne peut pas changer les choses. Mais si on se rallie, qu'on regarde nos forces et qu'on met ça de l'avant, on change le monde.
Change le monde pour le mieux. Mmh. Et en terminant, Mme Lefebvre, est-ce que vous avez un message pour les participants, les participantes du défi sportif Altergo de cette année?
J'ai lu beaucoup les profils des athlètes, puis qu'est-ce qu'ils en disent? Amusez-vous, persévérez, continuez, ayez du plaisir. Alors, je vais utiliser ces lignes-là pour dire bonne chance aux athlètes et profitez-en à plein.
Je ne sais pas si vous allez répondre à cette question qui me vient spontanément en tête. Est-ce que vous avez un sport préféré?
Moi, je pratique le tai chi depuis 23 ans.
Ah oui?
Et je le pratique encore régulièrement, maintenant que je suis à retraite, à tous les jours. Donc, et je suis des cours avec mon professeur, donc c'est vraiment mon activité favorite.
Et si vous assistez au défi sportif Altergo, est-ce qu'il y a un sport qui vous attire en particulier?
C'est sûr que j'en ai des chouchous, mais je les aime tous.
Ouais.
ce qui me fascine le plus, c'est de voir la détermination des enfants. Alors, j'assiste aux cérémonies d'ouverture lors des matinées. Et je pense même que Canalem va animer une activité sur les communications avec les partenaires. Alors, c'est sûr que j'y serai, je suis fascinée par ces éléments-là de l'accessibilité.
On va peut-être avoir la chance de se croiser.
Ben, je l'espère. Oui, écoutez, les sports, c'est sûr que le basketball en fauteuil roulant, mon père l'a pratiqué longtemps. J'ai moi-même joué dans des équipes. Alors, c'est un sport dans lequel j'ai un petit peu plus de connaissances, mais je les aime tous.
On vous comprend. Et les compétitions vont se dérouler dans plusieurs établissements du Grand Montréal, au complexe sportif Claude Robillard, au Parc Jarry, aux arénas Maurice-Richard et Howe-Morenz, au centre sportif du Cégep Édouard-Montpetit à Longueuil, et ça commence le 26 avril. J'en parlais avec la fondatrice du défi sportif Altergo, directrice générale d'Altergo de 1981 à 2019. Merci pour tout, Monique Lefebvre, puis
merci,
je vous souhaite un bon défi cette année encore, un bon défi sportif.
Merci infiniment. Bonne journée à tous.
Bonne journée.
Au revoir.